Le journal, présenté par Stanislas Vazac.
Bonsoir. Depuis la Roumanie, Emmanuel Macron désigne un adversaire unique pour les élections européennes, le Rassemblement National, qu'il veut à tout prix devancer le 26 mai prochain. Le reportage de Bertrand Galichet dans un instant. Le président qui recevra demain à l'Élysée le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. La France prépare une loi contre la haine en ligne. Nous en parlerons avec notre invité Laure de la Raudière, députée centriste spécialiste des questions numériques. Première victoire pour les opposants à la privatisation de la société Aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel valide la procédure visant à organiser un référendum d'initiative partagée. Mais il faut encore 4 700 000 signatures d'électeurs pour que le scrutin ait lieu. Les explications de Stéphane Robert. Emmanuel Macron a choisi la Roumanie pour entrer de plein pied dans la campagne des élections européennes en marge du sommet de l'UE de Sibiu. Le président a martelé son objectif, devancer le Rassemblement National le 26 mai prochain. Dans les derniers sondages, la liste RN de Jordan Bardella est au coude à coude pour la première place avec la liste LREM Modem de Nathalie Loiseau aux alentours de 22%. À 17 jours du scrutin, voilà Emmanuel Macron qui réactive le clivage entre européistes et nationalistes. Le reportage à Sibiu de Bertrand Galichet.
C'est en chef d'orchestre de la campagne de La République En Marche qu'Emmanuel Macron a conclu le sommet européen à Sibiu. À plusieurs reprises, le président cite le projet Renaissance, argumentant sur l'opposition entre ceux qui demandent plus d'Europe et ceux qui veulent la déconstruire.
Si en Europe, ceux qui veulent moins d'Europe l'emportent, si demain en Europe, au Parlement, il n'y a pas de majorité possible sans les nationalistes ou les extrêmes, il est clair que nous aurons moins d'Europe et la désunion sera notre faiblesse.
Emmanuel Macron estime que l'Europe s'est embourgeoisée alors qu'elle reste fragile. Sur la carte du monde, il n'y a pas un espace qui concentre autant de différences, dit-il, après s'être adressé directement aux jeunes.
Ne vous laissez pas voler l'Europe. Moi, je pense très souvent à la jeunesse britannique. La jeunesse britannique, elle s'était désintéressée du Brexit. Et la jeunesse britannique, elle s'est réveillée le lendemain avec la gueule de bois. L'Europe qui va se faire dans les 5 années qui viennent, tout particulièrement, c'est l'Europe de nos jeunes.
Le chef de l'État qui mettra toute son énergie, dit-il, pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête.
Bertrand Galichet, envoyé spécial en Roumanie. Réponse ce soir de Marine Le Pen sur France Info. Emmanuel Macron a choisi de ne plus être président de la République, mais président de parti et chef de campagne. Et la chef du Rassemblement National d'ajouter, Emmanuel Macron devra partir si effectivement il perd cette élection européenne. Fin de citation. Plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires ont manifesté aujourd'hui dans toute la France contre la réforme de la fonction publique. Ils étaient 109 000 selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 pour la CGT. À Toulouse, la manifestation a rassemblé entre 2800 et 8000 personnes selon les sources. Et des gilets jaunes sont venus renforcer le cortège. Le reportage de Stéphane Iglesis.
La manifestation toulousaine a été pliée en 2h30 chrono. Le rouge était de mise avec une forte présence de la CGT et les fonctionnaires territoriaux de FO et Sud. Il y avait aussi les gilets jaunes comme Cindy qui s'étaient mis stratégiquement en tête de manifestation.
Les retraites précaires de nos parents, c'est abusé quand ils ont travaillé depuis l'âge de 14 ans et d'avoir 700 euros par mois. J'ai une fille qui va au collège, donc la réforme Blanquer, c'est tout simplement aberrant, c'est la finalité de l'école. Donc on est touché de plein front et on fait partie de la classe moyenne et ceux qui payent tout le temps. On a 4000 euros par mois et le 15 du mois, on n'a plus rien parce que on n'a aucune aide et il faut tout payer, les impôts, enfin on s'en sort plus.
Des services publics pour tous, c'est le slogan vu le plus souvent ici à Toulouse, avec aussi des enseignants toujours remontés contre la réforme Blanquer. Stéphane, prof d'histoire géo en lycée.
90% des enseignants sont prononcés contre cette réforme puisqu'elle est illisible, incohérente et qu'elle va complètement contre les principes fondamentaux d'école républicaine. Monsieur Blanquer parle de liberté de choix là où il impose des parcours de vie dès 15 ans. Il parle par ailleurs de justice sociale alors qu'il détruit le principe d'égalité des chances. À ce niveau-là, on se demande s'il ne s'agit pas de dyslexie, nous.
La manifestation toulousaine a été tranquille, musicale, conviviale, animée par les AOU des Gilets jaunes qui ont contribué à réveiller le cortège.
Stéphane Iglesis et cette réforme de la fonction publique arrive mardi prochain à l'Assemblée. Le texte prévoit un recours accru aux contractuels. Il veut aussi favoriser la mobilité des fonctionnaires. Le projet de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris a franchi une étape importante aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a validé la procédure lancée le mois dernier par 250 parlementaires de l'opposition. Ces élus refusent la privatisation d'ADP voulue par le gouvernement. Ils veulent demander aux Français leur avis sur la question. Stéphane Robert, il n'est pas du tout sûr que ce référendum puisse avoir lieu un jour.
Non, mais c'est tout de même une étape importante qui vient d'être franchie, une étape importante dans une procédure dont on disait qu'elle ne pourrait jamais être mise en œuvre tellement les conditions sont difficiles à réunir. Il fallait déjà faire signer 185 parlementaires, ça n'était jamais arrivé jusqu'ici. Finalement, une alliance entre la droite et la gauche a permis de recueillir l'assentiment de 248 députés et sénateurs le mois dernier. Ensuite, la députée socialiste Valérie Rabault et le député Les Républicains Gilles Carrez ont travaillé de concert avec des constitutionnalistes pour élaborer un texte recevable par le Conseil constitutionnel. Ils se sont donc tous deux cet après-midi à l'Assemblée nationale félicités de la décision rendue par les sages.
Nous en sommes heureux parce que c'était quand même un gros travail qu'il a fallu mener dans des délais très courts et bon, c'est une satisfaction.
Là, nous donnons les clés à nos concitoyens en leur disant c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité qui vous est donnée de dire que vous ne voulez pas la privatisation d'Aéroports de Paris. Il y a eu beaucoup de débats pendant le grand débat. Les citoyens ont dit qu'ils voulaient la parole. Cette fois-ci, ils l'ont, qu'ils la prennent. Ils ont 9 mois pour l'utiliser.
Désormais, c'est au ministère de l'Intérieur de prendre les choses en main et de consulter les Français, car avant d'organiser un référendum, il faut les signatures de 10% du corps électoral, soit 4 700 000 Français. 4 700 000, c'est beaucoup, d'autant que tous devront décliner leur identité afin de vérifier qu'ils ne votent pas deux fois. Et ça, évidemment, ça pourra générer des réticences. À l'époque, en 2008, on disait que cette procédure avait été imaginée pour qu'elle ne puisse jamais être utilisée. Finalement, elle pourrait bien aboutir, surtout si une partie des Français se saisissent de l'opportunité pour exprimer via cette consultation leur opposition à Emmanuel Macron.
Stéphane Robert, merci. Et déjà un premier succès pour l'opposition. Le ministère de l'Économie fait savoir ce soir qu'il n'y aura aucune décision sur la privatisation d'ADP pendant le délai de la procédure du référendum d'initiative partagée. Emmanuel Macron reçoit demain à l'Élysée le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Il s'agit d'élaborer avec le géant américain une stratégie commune pour lutter contre la haine en ligne. Cela fait plusieurs mois que la France travaille avec Facebook pour empêcher la propagation des propos haineux sur les réseaux sociaux. La députée LREM Laetitia Avia prépare d'ailleurs un texte de loi que le Conseil des ministres pourrait examiner dès cet été. Invité de ce journal lors de la Rodière, député UDI Agir, spécialiste des questions liées au numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Lors de la Rodière, l'État français a-t-il un rôle particulier à jouer pour lutter contre les propos haineux sur des plateformes comme Facebook ?
Oui, l'État français et d'autres États d'ailleurs, mais Facebook est une plateforme qui aujourd'hui regroupe 35 millions de Français. Il y a 35 millions de Français qui sont utilisateurs de Facebook et c'est un super outil pour communiquer entre amis, avec la famille. Mais depuis quelques années, en fait, Facebook est aussi un lieu de débat, notamment de débat politique. Et il y a des pratiques malveillantes qui se développent. Et donc, le gouvernement a nécessairement besoin d'avoir des relations avec Facebook pour voir comment mieux lutter contre la propagation de contenus malveillants. Alors, c'est assez facile pour les contenus, pour la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre les images pédopornographiques en ligne, parce que c'est très facile à caractériser comme étant des images ou des contenus illicites. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour les propos haineux. C'est dans ce cadre-là qu'il faut travailler avec Facebook pour voir comment on peut le faire sans restreindre la liberté d'expression.
Justement, comment peut-on définir des contenus haineux sur Internet ? Il faut une définition spécifique ?
Je ne sais pas s'il faut une définition spécifique. Un contenu haineux, c'est un contenu haineux. Et Facebook n'a pas à retirer des contenus qui ne seraient pas manifestement illicites. Déjà, dans la loi, il y a certains contenus qui sont répréhensifs. Par exemple, des propos de haine contre l'homophobie ou des propos anti-religion qui seraient une haine vis-à-vis des personnes. D'ailleurs, Facebook a déjà au niveau mondial en fait une politique qui s'applique à tous les pays pour lutter contre des propos de haine raciale ou des propos de harcèlement d'individus. Mais il s'agit de voir en fait comment notre spécificité française, c'est-à-dire notre corpus législatif, peut être mieux régulé par Facebook. Et c'est tout l'enjeu du débat qu'on va avoir dans le cadre de la proposition de loi portée par ma collègue Laetitia Avia. Et c'est très compliqué, en fait, parce que beaucoup de ces propos haineux, il y a ce qu'on appelle une zone grise. C'est pas forcément manifestement illicite. Je voudrais prendre un exemple. Il y a quelques années, Christine Boutin avait dit « L'homosexualité est une abomination ». Est-ce que c'est un contenu illicite, manifestement illicite ? Est-ce que c'est des propos haineux ou pas ? C'est en cassation, la justice a dit bah non, c'est pas illicite, c'est moralement condamnable, mais c'est pas illégal. Donc on voit qu'il y a des zones grises et il faut qu'on trouve le bon équilibre entre la liberté d'expression qui existe en France, qui est un droit constitutionnel, et puis la lutte en fait contre des pratiques malveillantes et quelquefois des torrents de haine qui se déversent sur Facebook.
Mais est-ce qu'on peut faire confiance à un géant comme Facebook pour tenir compte des inquiétudes d'un seul État ?
Je vous ai dit, il y a 35 millions d'utilisateurs de Facebook en France. Et Facebook a besoin de travailler avec tous les pays, particulièrement avec des pays qui sont à la fois attachés à la liberté d'expression, mais aussi qui veulent encadrer certains propos malveillants, parce qu'il en va de sa réputation. Or, avec les différents scandales à répétition qu'il y a eu ces dernières années sur Facebook, il faut que Facebook puisse travailler avec les autorités françaises, parce que si des autorités, que ce soit français ou dans d'autres pays, estiment à terme que le réseau social perturbe l'ordre public, dans ce cas-là, on peut aller sur des instructions en interdisant en fait Facebook. Vous voyez, si on tire le fil et on estime que Facebook ne contribue pas à un maintien d'ordre public satisfaisant, que c'est des perturbateurs pour l'ordre public, c'est très néfaste en fait pour Facebook.
Sauf que le numérique, par définition, ne connaît pas de frontières. Alors comment on fait pour imposer des règles nationales ?
Ça, c'est aussi Facebook, d'avoir en fait des équipes dans tous les pays. C'est ce qu'ils ont développé depuis quelques années pour qu'il y ait à la fois un chapeau qui est la politique de Facebook en matière de contenu. Donc, ils font déjà des choses au niveau mondial. Et puis après, qu'ils adaptent en fonction de la législation de chacun des pays. Mais c'est naturellement, c'est sur signalement, en fait. Donc, il y aura un signalement de propos haineux à Facebook, et Facebook devra adapter en fait son type de retrait selon les pays, en fonction de la législation qui existe dans les pays. Il ne faut pas non plus que l'État français se dédouane d'aller poursuivre en responsabilité pénale les personnes, si elles sont sur le territoire français, des contenus haineux publiés. C'est-à-dire, il ne faudrait pas non plus que, parce que Facebook retirera le contenu haineux, on mette un petit peu la poussière sous le tapis.
Laure de la Rodière, députée UDI Agir, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est un tournant majeur pour l'Église catholique. Le pape François a changé aujourd'hui la loi canonique, et cela pour obliger les religieux à signaler à leur hiérarchie tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement. Mathilde Imberti, vous êtes notre correspondante à Rome. Le pape François s'adresse d'abord à ses cadres pour en finir avec le scandale des abus sexuels.
Oui, et là, ce sont les évêques qui sont concernés. Le pape veut en finir avec le cléricalisme qui consiste à protéger l'institution avant de penser aux victimes. Toute tentative d'ensablement ou ensablement avéré doit être dénoncée. L'homme ou la femme d'église qui a cette information doit la partager. Et si c'est un évêque qui est concerné, alors c'est le Saint-Siège qu'il faut saisir directement. Précision majeure de ce texte, Rome devra répondre sous 30 jours. C'est tout à fait nouveau aussi. Rome a parfois attendu des années avant d'agir. Cette nouvelle mesure procédurale concernant les évêques est historique, relève Monseigneur Chicluna. C'est l'enquêteur en chef du pape sur les questions d'abus. Il a piloté le sommet de février dernier au Vatican.
Les gens doivent savoir que les évêques se placent au service des autres. Ils ne sont pas au-dessus des lois. S'ils font du mal, ils doivent être dénoncés. L'autre point essentiel, et je dirais historique, c'est que pour la première fois, une loi universelle de l'Église impose l'obligation de dénoncer.
Celui qui dénonce, toujours selon le texte publié aujourd'hui, sera protégé. Dans le détail, le pape reste flou pour l'instant sur la manière dont cette protection s'exercera.
Mathilde Imberti depuis Rome, merci. Au Venezuela, un député de l'opposition s'est réfugié aujourd'hui dans l'ambassade d'Argentine à Caracas. Richard Blanco fait partie des 10 parlementaires vénézuéliens inculpés pour leur soutien au soulèvement militaire manqué du 30 avril dernier. Le régime Maduro intensifie la répression contre les partisans de l'opposant Juan Guaido. Juan Guaido, qui dénonce ce soir un démantèlement du Parlement. Un mot du temps demain, frais et faiblement pluvieux sur la façade ouest. Dans l'après-midi, un ciel orageux sur les Pyrénées. Sur les autres régions, les nuages alterneront avec les éclaircies. Température minimale de 5 à 14 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 14 à 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.